Des bus, des métros, des trains et des avions au compte-goutte aujourd'hui encore. Sixième jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites. Ce conflit nous offre l'occasion de nous pencher sur nos modes de déplacement, sur la façon dont les politiques en France ont modelé l'espace urbain. Bonjour Frédéric Héran.
Bonjour.
Vous êtes économiste, urbaniste, enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Que dit cette grève de notre mobilité ?
Eh bien, que la voiture prend énormément de place et que dès qu'elle ne peut plus, dès que les transports publics sont bloqués, la voiture se coince. Parce que tout est toujours très tendu, elle prend en fait toute la place qu'on lui donne dans les zones denses. Et dès qu'on cherche à l'utiliser un peu plus, les embouteillages arrivent.
Et si on prend notre voiture, c'est parce qu'on vit loin de son lieu de travail ?
Oui, la ville s'étale avec la mobilité facilitée, comme on dit. C'est-à-dire avec l'usage plus facile des modes de transport. Elle s'est d'abord étalée avec les transports publics dès le début du XXe siècle. Et ensuite, à partir des années 60, 70, elle s'est étalée avec l'essor de l'automobile.
Donc là, ce sont les Français qui se sont éloignés avec cette mobilité facilitée, comme vous l'appelez. Est-ce qu'on peut voir aussi une autre raison, l'inverse ? Est-ce que le travail s'éloigne aussi ? Est-ce que le pays aujourd'hui s'organise autour de pôles d'attraction qui sont uniquement situés dans les grandes villes ? Et qui fait que là aussi on a besoin du train, de la voiture pour se déplacer.
En fait, la localisation des emplois comme des logements se fait en fonction de la mobilité. C'est bien à l'origine la mobilité plus facile qui rend la localisation plus lointaine des emplois comme des logements.
Mais ça a été le résultat d'une volonté politique ?
Non. Non, et en même temps, oui, c'est-à-dire que non, au départ, c'est d'abord grâce au fait qu'on peut se déplacer plus facilement en voiture, en transport public, que tout s'est éloigné, mais on a aussi ensuite accompagné et renforcé cette tendance en créant, par exemple, une ville très ségrégée, avec des espaces uniquement pour le logement, d'autres uniquement pour les emplois, d'autres uniquement pour les commerces. Et cette ville à quartier spécifique, spécialisé, renforce évidemment en retour la mobilité éloignée.
Vous le disiez, on est devenu totalement dépendant de la voiture. Il y a quand même beaucoup de Français qui sont eux totalement dépendants des transports en commun. Et la France a particulièrement développé cela. La gare du Nord, c'est la première gare d'Europe en trafic. Le RER A, c'est la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe. Le RER B, la deuxième. On est un pays hyper mobile ?
Oui, enfin bon, c'est un lieu commun de dire qu'on est un pays hyper mobile, on l'est pas plus qu'ailleurs. En fait, le cas français n'est pas très spécifique. Le phénomène d'étalement urbain existe à peu près partout. Alors c'est vrai qu'il était un peu mieux contré dans certains pays que d'autres, mais globalement, ça se passe à peu près partout de la même façon.
Quel pays, par exemple, a un peu mieux réussi ? Eh bien, un pays comparable, avec les mêmes problématiques.
Eh bien, il y a des pays, par exemple, qui ont tout à fait réussi à empêcher l'étalement des zones commerciales. Ouais. En Allemagne, aux Pays-Bas, il n'y a pas du tout de ces immenses zones commerciales en périphérie que nous avons laissé construire en France. Alors ça, c'est une différence très importante. Mais malgré tout, il y a quand même de l'étalement urbain, même aux Pays-Bas, grâce à cet usage immodéré de la voiture.
L'Île-de-France, dont on parle beaucoup en ce moment, et à juste titre, hein, parce qu'il y a quand même, c'est un sixième de la population française qui utilise beaucoup les transports en commun. Mais l'Île-de-France, c'est pas la France. Les problématiques sont différentes dans la plupart du pays.
Bon, l'Île-de-France, Paris étant beaucoup plus peuplé que les villes suivantes, il y a des spécificités franciliennes, ça sans aucun doute. L'une d'entre elles, il y en a beaucoup, hein, mais l'une d'entre elles, c'est le fait qu'on est dans un territoire très ségrégué. Ségrégué, ça veut dire que, par exemple, ça fait depuis les années 50 qu'on sait que beaucoup d'emplois sont à l'ouest et beaucoup de logements à l'est, et qu'on ne fait toujours rien pour essayer de réduire cette disparité.
Donc là, ça pourrait être un choix politique, c'est ça ?
Ah oui, et on a choisi de faire le Grand Paris Express pour éviter cela, et donc de mettre les gens dans les transports plutôt que de faire un urbanisme plus mixte, plus mélangé.
C'est-à-dire qu'on continue par exemple de développer la défense, d'installer des nouvelles tours, des nouveaux emplois.
Si vous saviez pourquoi on développe la défense, c'est inouï, c'est pour payer la dalle.
C'est-à-dire ?
Eh bien, la dalle coûte tellement cher, la dalle, c'est-à-dire cette couverture de béton qui est assez agréable, hein, qui est assez bien faite à la défense, coûte très cher en maintenance. Et pour payer cette maintenance, on est obligé de vendre des droits à construire supplémentaires. Donc, on étale sans arrêt la défense.
Mais donc ça
alors
fait une
même qu'il
plus
faudrait
en plus
créer des emplois à l'Est, bien plus à l'Est, là où vivent les gens.
Mais donc c'est sans fin, parce que si on agrandit cette dalle, il faut l'entretenir encore plus.
Et absolument, ça s'appelle une fuite en avant.
D'accord. Et là, il n'y a aucun politique qui souligne ça.
Et non, malheureusement, on n'a pas travaillé cette question suffisamment. On a choisi de construire le Grand Paris Express qui coûte déjà 35 milliards d'euros et qui devrait, on va aller 50 milliards, quoi.
Alors, penchons-nous dans l'avenir. Est-ce qu'on peut imaginer un pays où l'on pourrait se passer des transports en commun ou de la voiture? Est-ce que le vélo, la marche ou en tout cas la voiture en solitaire, mais le covoiturage, est-ce que ça pourrait marcher? Ou est-ce que c'est totalement utopique?
On va vers des solutions nouvelles. Mais qu'on n'a pas encore exploré, dont certaines, par exemple, si je vous parle de micro-voitures, de vélo-voitures, vous savez pas ce que c'est, et bon, ben, faudrait des images quand même pour montrer simplement. Bon, il y a en fait quantité de modes de déplacement intermédiaires entre le vélo classique et la voiture classique.
Mais ça fait plus de véhicules sur les routes, ça, qui sont déjà bien chargés.
Non, alors justement, il faut comprendre que la voiture, par personne transportée, consomme énormément, mais énormément d'espace. Déjà, rien que pour stationner, il faut trois places. Mm-hmm. Une place au domicile, une place au travail, et puis une place qu'on partage ailleurs. Donc, il faut 70 mètres carrés dès que vous achetez une voiture. Et il faut les trouver, ces 70 mètres carrés. Rien que pour le stationnement, pour le déplacement, et ça prend aussi beaucoup d'espace. Ça consomme énormément de ressources. Pour trimballer 100 kilos de chair humaine, eh bien, il faut 1,5 tonne de métal et de plastique. Il y a un problème, hein. C'est pas du tout rationnel. Donc, il faudra bien qu'on trouve des modes de déplacement plus rationnels, moins consommateurs de ressources naturelles. Et on y va.
On n'a pas le choix, c'est ça?
Pardon?
De toute façon, on n'a pas le choix.
Oui, on n'a pas le choix. Bon, aujourd'hui, beaucoup pensent que la voiture est un horizon indépassable. C'est pas mon cas. Je pense que, alors ce sera pas tout de suite, hein, mais dans 20 ans, dans 30 ans, on sera bien obligé d'explorer d'autres modes de déplacement.
Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'il est grand temps que les politiques écoutent les urbanistes, c'est ça?
Oui, par exemple.
Frédéric Errand, merci beaucoup. Enseignant-chercheur à l'Université de Lille et urbaniste, vous étiez l'invité du 5-7.